Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du vendredi. Les zones commerciales font-elles société? Quel nouvel urbanisme? Le point de vue croisé de deux architectes à partir de 1955. L'un opposé au projet de méga-complexe Europa City dans le nord de Paris. L'autre aux transformations de la gare du Nord à Paris. Albert Lévy et Patrick Bouchain sont les invités aujourd'hui de la grande table des idées. Mais d'abord, un nouveau roman pour l'auteur des Veilleurs, puis de Défaite des maîtres et possesseurs au seuil. Cora, dans la spirale, s'immerge cette fois dans le monde de l'entreprise et raconte un monde où le travail tue. Entre roman social et portrait de femme, une autre pépite de cette rentrée littéraire, Vincent Message, son auteur, écrivain, est notre invité. À écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Le management, car je dis management moi et non pas management, le management est une méthode qui a été mise au point par les Américains pour permettre à l'industrie de passer du stade artisanal au stade de la technique avancée.
Maîtresse de maison, mère de famille, journaliste, comment organisez-vous vos journées?
Eh bien, en important à la maison les méthodes que j'utilise au bureau. Je trouve que c'est une chose très importante que de se comporter dans sa vie pratique comme on se comporte dans sa vie professionnelle. Et je trouve que beaucoup de femmes, même parmi celles qui travaillent, ne savent pas toujours utiliser à la maison les méthodes qu'elles emploient au bureau.
Voilà, la journaliste Christine Collange, née Servan-Schreiber au temps de l'ORTF en 1970, nous donnant des conseils de management. Cora dans la spirale, là on est bien en 2019. Cora Salm reprend le travail après son congé maternité, salariée d'une compagnie d'assurance. Mais l'entreprise, même reprise, ne se porte pas si bien. Quelles conséquences sur la vie de ses salariés? Cora doute. Cora survivra-t-elle? Bonjour Vincent Message.
Bonjour.
Un portrait de femme. Vous avez pensé votre héroïne, Cora, comme une Madame Bovary des temps modernes?
Oui, d'une certaine manière. Enfin, les portraits de femmes, il y en a plusieurs assez importants dans la littérature. Anna Karenine n'était pas non plus très loin de mes pensées, ou l'héroïne du carnet d'or de Doris Lessing, qui s'appelle Anna Wulf, et qui cherche aussi à se démultiplier entre ses rôles de militante, de mère, d'amante. Donc pour moi, Cora, ça devait être une héroïne effectivement de notre présent, qui n'a pas envie de se restreindre dans ses désirs, dans ses aspirations, qui a envie de concilier des ambitions professionnelles, une sorte de fidélité à ses rêves d'enfance, qui ont pu être de devenir photographe, qui peuvent être de laisser une marque, de changer un peu le monde autour de soi. Et puis, la construction d'une vie à peu près stable, qui l'a fait renoncer à sa vocation première qui était la photographie et prendre un poste en marketing quand elle approche de la trentaine et qu'elle a aussi envie d'avoir des enfants, de fonder une famille, de s'installer un peu.
Du 19e au 21e, de Flaubert aussi, à vous, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui la place des femmes a beaucoup changé, c'est-à-dire la nature de leurs rêves, mais aussi peut-être la nature de leur mal?
La littérature, ça raconte souvent l'histoire de gens qui rêvent plus grand que leur vie, à qui la vie réelle ne suffit pas. Il y a quand même de grosses différences entre Cora et Emma Bovary et entre cette époque et la nôtre. C'est une femme qui a fait des études, c'est une femme qui vit dans un couple relativement paritaire avec son compagnon Pierre. Et elle se définit aussi vraiment comme une professionnelle, c'est-à-dire que à la fin de son congé maternité, elle se dit que passer toutes ses journées en trajet au square, à la pharmacie ou dans des administrations ne remplirait pas sa vie. Elle est assez contente aussi de pouvoir reprendre le travail et de trouver de la gratification dans des échanges avec des collègues, dans le fait de monter des projets. Donc elle y va avec du cœur à l'ouvrage. Mais malheureusement pour elle, c'est l'automne 2010 et cette entreprise dans laquelle elle travaille va assez mal. Et donc les choses vont se dégrader assez rapidement.
Dans quelle spirale est-elle prise? Cette spirale, est-ce qu'elle va l'aspirer au lieu de l'inspirer?
La spirale, ça dit déjà ce mouvement du livre. C'est une femme assez vive, assez tourbillonnante, qui a des désirs contradictoires. Et donc elle est toujours en mouvement. Mais il y a donc une part de ce mouvement est volontaire et puis il y en a une autre qu'elle subit. Il y a des changements très concrets dans l'entreprise. Borrelia, où elle travaille, son chef avec qui elle s'entendait bien, victime d'une sorte de combat au sommet, et bientôt il est plus de la partie. Elle était à Saint-Lazare, quartier qui lui allait bien. Il déménage dans une tour de la Défense. Alors c'est, vous parlerez en deuxième partie du gigantisme architectural. Moi, je me suis beaucoup interrogé pour savoir ce que ça fait au corps, ce que ça fait à l'esprit. C'est-à-dire, c'est quoi de travailler à 110 mètres du sol quand on peut pas ouvrir les fenêtres soi-même? C'est quoi d'essayer de se concentrer pour avancer dans un travail et donc du coup se reconnaître un peu dans le fruit de son travail alors qu'on est sans cesse interrompu, perturbé par les allées et venues dans l'open space? J'essaye de raconter le travail comme une expérience corporelle qui peut rehausser, qui peut amener vers nous faire nous dépasser, faire que parfois on est plus heureux une journée où on a bien travaillé qu'une journée où on est resté chez soi à tourner un peu en rond, mais qui peut aussi aspirer dans le sens inverse et vider petit à petit la vie de son sens, l'amener vers l'ennui ou l'amener vers même l'absurde parfois.
Vous pensez que tout a été réfléchi, cette maison ronde dans laquelle vous êtes en ce moment, vous pensez que les architectes de cette maison ont pensé au corps des salariés en la construisant, et ce que cette rondeur, ce sentiment de pouvoir tourner ad vitam aeternam peut provoquer?
Je m'intéresse beaucoup à l'effet des architectures sur les individus, en tout cas.
Donc, vous allez devoir venir passer un peu de temps chez nous, c'est ça, hein, et tourner avec nous. La question d'un travail oppressant ou libérateur, d'un travail qui déshumanise ou qui émancipe, on sent qu'elle est aussi au cœur de ce roman pour vous, au cœur peut-être de cette réalité comme elle l'est de nos existences. C'est compliqué d'écrire sur le réel, de faire fiction à partir du réel, Vincent Message.
C'est surtout compliqué d'écrire sur le travail, et en particulier dans les métiers de service que j'ai essayé de raconter. Le roman, il est aussi venu de là. Je me suis dit, ce monde, c'est la vie quotidienne de dizaines de millions de personnes en France. Mais c'est un travail à une table, devant des écrans ou dans des réunions. À première vue, ça paraît pas très narratif, et donc on a du mal à le raconter. En plus, les romanciers, souvent, ne sont pas en entreprise, donc ils connaissent mal ce monde. En y réfléchissant mieux, en fait, si on dézoome un petit peu, une entreprise, c'est aussi une organisation avec des rapports de pouvoir, des rapports de séduction, une histoire, des évolutions. Donc là, cette entreprise Borrelia, elle passe d'un capitalisme dynastique, familial, à un capitalisme de groupe, où les méthodes de management deviennent plus agressives, où la rationalité économique, elle est mise en doute par certains salariés qui disent que non, ça va pas forcément améliorer la productivité, etc. Et donc, en fait, on peut raconter tout ça, on peut en faire un théâtre majeur du récit, parce que c'est comme un échiquier où les pions se déplaceraient, et Cora se demande qui sont ses amis, qui sont ses ennemis dans la nouvelle période qui s'ouvre, comment se positionner. Elle va assez vite être dans un conflit avec son nouveau N+2, qui s'appelle Franck Tomaso, dont je prends aussi le point de vue. J'avais pour souci de pas me focaliser sur une histoire individuelle, de pas être juste dans un duo entre quelqu'un qui se comporte de manière agressive et quelqu'un qui essaye de subir et de résister, mais de voir les choses plus largement et donc avec des points de vue multiples. Quelles sont les contraintes que chaque individu subit, que parfois les gens sont obligés de reporter en dessous ou à côté sur leurs collaborateurs? Quelle violence les gens sont prêts à subir et parfois à infliger pour se maintenir en place ou pour monter?
Et c'est ça aussi peut-être le point principal, la multiplicité, la pluralité des points de vue pour vous. C'est pas juste un artifice d'écriture, c'est quoi? C'est comme une sorte de franchise, d'honnêteté de l'écrivain, d'envie de ne pas être ni caricatural ni manichéen, y compris sur un sujet comme celui-ci, où vous avez peut-être votre propre idée, voire vos préjugés, de montrer toujours les forces contradictoires qui sont à l'œuvre dans cette société.
Effectivement, j'ai vraiment ce souci. C'est-à-dire, j'ai envie que le roman, au fur et à mesure de son écriture, me surprenne, m'apprenne des choses, défasse mes préjugés. Et donc, j'y vais pour écouter tout le monde. C'est-à-dire, les personnages se sont construits aussi à l'écoute des voix du réel. Donc voilà, j'ai mené des entretiens, j'ai travaillé aussi avec un dictaphone, etc. Je savais que tout ça serait profondément modifié par ensuite la mise en récit, qui resterait juste de temps à autre une expression, une anecdote, un détail, mais j'y tenais pour que ça sonne juste, pour que les gens qui vivent dans ces mondes-là s'y retrouvent, et pour que ceux qui ne les connaissent pas du tout les découvrent et aient l'impression qu'on leur dit vraiment les tenants et les aboutissants. Et l'équilibre des points de vue, oui, est importante pour moi, parce que C'est assez facile de dire tous les mots du capitalisme. Il y a pas besoin d'un roman pour ça. L'essai politique, le pamphlet peuvent tout à fait suffire. Dans le roman, c'est une immersion, c'est du temps long. On peut prendre la peine de comprendre comment le système s'est constitué. Et le capitalisme, au fond, ça n'existe pas. C'est quand même une abstraction. Donc, de quels millions de comportements individuels et de décisions individuelles et dans quelle situation cet ensemble-là est fait? Ça m'intéresse beaucoup, ça.
Ce système, après l'avoir défendu, certains sont en train d'en revenir. En quoi les nouveaux modes de management sont particulièrement redoutables? Écoutez le témoignage d'un ancien directeur de ressources humaines, un repenti, comme on dit.
Les managers, au moment de faire les évaluations de fin d'année, on leur disait clairement, on les formait aux évaluations, et puis on leur disait, vous allez donc mettre les gens dans des cases. Parfois, il y a 5 cases, ça va du excellent rôle modèle ou dernier, c'est le low performer. Dans d'autres entreprises, c'est 3. Et on leur dit, et il faudra que vous ayez au moins 5, 10, 12% dans la dernière case, la case la plus mauvaise. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on estime, et je l'ai lu, et vous pouvez encore le lire sur Internet, on estime qu'une organisation, une entreprise dynamique, elle se doit d'avoir des gens qui sont moins bons et que l'on va traiter, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière le mot traiter, afin que l'entreprise soit un peu plus dynamique. Aujourd'hui, ça prend des formes un peu plus sophistiquées parfois. C'est-à-dire qu'en général, maintenant, tout cela se fait par informatique et c'est le système informatique lui-même qui a été paramétré pour que le manager ne puisse pas mettre tout le monde en bon et se retrouve obligatoirement à devoir mettre un certain nombre de personnes dans son équipe en mauvais.
Voilà, dans le roman, dans Cora dans la spirale, votre roman, Vincent Message, vous montrez aussi, présentez différents types de discours managériaux. C'est presque une satire aussi de ce parler management, de ce parler entreprise. C'est une langue qui vous abîme les oreilles par les réalités qu'elle recouvre.
C'est une langue que j'ai voulu essayer de saisir dans sa complexité. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il y a du vocabulaire anglais. On a entendu le performance à l'instant. C'est vrai, le concept, il existe, il est appliqué. À un moment donné, on demande aussi à Cora de dire qui, dans les 12 personnes qu'elle manage, fait partie de la catégorie D, la plus basse. Donc, elle se retrouve face à ce dilemme. Mais les individus aussi y résistent. Ils ont d'autres mots pour parler de leur travail que les mots des manuels de management. Et donc j'ai essayé de restituer ce langage. Il n'y a pas énormément de discours direct dans le livre. Je trouvais ça plus intéressant de le ressaisir dans la narration et de le mêler du coup à des choses aussi plus littéraires qui en contrebalancent la sécheresse, etc. Je crois que dans une entreprise, les gens portent des masques, on est tous multiples, et donc le même individu peut être lyrique à un instant de la journée et puis très pragmatique et parlant chiffres à un autre. Donc c'est aussi cette multiplicité-là que j'ai essayé de rendre en articulant une langue qui est très littéraire et puis quand même assez précisément la langue que les gens utilisent pour travailler et pour organiser le travail.
Je rêve d'un monde où on se raconterait les vies humaines les unes après les autres, avec assez de lenteur, d'incertitude et de répétition pour qu'elles acquièrent la force des mythes, écrivez-vous Vincent Message. Est-ce que vous pensez vraiment que toute vie mérite d'être racontée?
Alors c'est mon narrateur Mathias qui dit ça, donc c'est bien après les événements qu'il enquête dessus, en allant voir un certain nombre de témoins, collègues de Cora, proches de Cora. Il raconte 3 années qu'on fait basculer sa vie, ça se noue autour d'un drame qui a une date précise, c'est le 8 juin 2012. Ce jour-là, Cora subit un traumatisme majeur, et donc toute la question est de savoir comment on en est venu là. Et oui, je me sens assez en accord avec Mathias
narrateur.
Quand il dit ça. Oui,
ouais.
Je suis pas toujours d'accord avec mon narrateur, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais sur ce coup-là, plutôt. Et je crois que toute vie est digne d'être racontée. L'histoire de Cora, c'est une toute petite histoire, mais évidemment, elle est représentative. Elle est liée à une collectivité. Le roman, il raconte une expérience majoritaire aujourd'hui. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure. Dans ces métiers travaillent des dizaines de millions de personnes qui sont plus ou moins passionnées par leur travail, plus ou moins satisfaites, qui ont eu des épreuves, qui ont pu se faire virer à un moment donné, qui ont pu rebondir. Le mythe est important pour moi parce que il vient équilibrer le réalisme. C'est-à-dire, j'ai voulu être très réaliste, faire comme si ce cas avait eu lieu, faire comme si c'était presque ce qu'on appelle de la non-fiction narrative. C'est-à-dire, imagine, je serais un enquêteur et je raconte un fait divers qui a eu lieu vraiment dans ses détails. Et en même temps, J'essaye de montrer d'emblée que cette vie saisie à distance, après quelques années de recul, elle est mythique et que Cora elle-même s'est vécue comme une, l'a vécue comme une aventure. Et quand cette dimension d'aventure lui manquait dans sa vie, elle s'est démenée, quitte à prendre des risques, quitte à aller vers des formes d'autodestruction pour la retrouver, pour retrouver l'intensité, pour retrouver de la surprise, de la nouveauté dans sa vie.
Quitte à en payer le prix aussi.
Oui, tout à fait.
Je reprends le fil de cette phrase. Je rêve d'un monde où on se raconterait les vies humaines les unes après les autres, avec assez de lenteur, d'incertitude et de répétition pour qu'elles acquièrent la force des mythes. Fidèle à l'utopie, je rêve d'une société où on aurait les moyens de faire ça, où on n'aurait rien de plus urgent à faire. Mais je sais bien en fait qu'on ne sait pas qui a vécu sur cette terre. On ne connaît pas les noms, on conjecture les chiffres. Ne pas perdre le contact avec ses rêves, porter un regard neuf sur ce qui nous entoure, c'est aussi la quête indirecte ou peut-être non formulée de votre héroïne Cora. C'est pour ça qu'il est urgent pour vous, Vincent Message, aujourd'hui, de ralentir.
La spirale, c'est effectivement une sorte de mouvement effréné.
Qui entraîne souvent vers la chute.
Tout à fait. Il y a un moment donné où Cora est en retard pour aller à un concert à Gare Saint-Lazare et concrètement, elle tombe. Elle tombe, c'est la foule, c'est une gare où il passe des millions de personnes par jour. C'est la gare où il y a le plus de monde en Europe, beaucoup plus qu'à l'époque où Monet l'a peinte, qui est une époque que je rappelle. Il y a un personnage du roman qui est fasciné par les peintures que Monet a faites de Saint-Lazare. Cette accélération, on peut tous la sentir et c'est très difficile de s'y opposer, de ralentir. On est pris par une recherche d'intensité, on craint l'ennui. Et donc c'est ces équilibres délicats que j'essaye de restituer, c'est-à-dire que quand elle a cherché à percer dans la photographie, Cora avait des journées parfois trop vides, le téléphone ne sonne pas, elle travaille chez elle, elle n'arrive pas à boucler ses fins de mois, elle a une grande liberté, parfois elle ne sait pas toujours quoi en faire. Et à l'inverse, jeune maman, travaillant dans une boîte d'assurance, elle se retrouve avec un emploi du temps minuté, l'œil rivé sur la montre, à redouter le moindre retard dans les transports qui risque de lui faire rater une réunion, etc. À avoir ce sentiment de courir. Donc je montre aussi de quelle variation de rythme elle va avoir besoin. Elle a besoin d'écouter de la musique, par exemple, pour ralentir. Elle peut avoir besoin de quitter Paris sur un coup de tête. Elle peut avoir besoin aussi, parfois, de passer une vitesse, c'est-à-dire de rajouter de l'intensité alors que sa vie est déjà trop contraignante en nouant une amitié nouvelle ou en ayant une aventure. Et elle est prise dans ces contradictions-là.
Et c'est la première phrase aussi du livre sur cette idée de ralentir qui va donner le tempo, ou en tout cas les multiples tempos de nos vies, comme celle de Cora. Notre espèce bagnaudée sur Terre depuis 200 ou 300 000 ans, lorsqu'un matin, sur le coup de 7h30, Cora Salm se mit à voir d'un œil neuf les couloirs de céramique bleue et blanche du métro parisien. Elle prend des notes, elle compulse. Qu'est-ce qu'elle fait à travers ça, tous ces petits carnets, Cora? Est-ce qu'elle a un besoin d'entretenir cette mémoire du quotidien pour, là encore, essayer de retenir le temps?
Effectivement, le narrateur Mathias travaille à partir d'une grosse trentaine de carnets qu'a laissé Cora. Et elle a toujours griffonné au jour le jour. Parfois, elle se dit, c'est une manière de réfléchir et de m'arrêter, d'analyser des choses dans ma vie sans aller voir des psys, parce que ça prend du temps, ça coûte cher, etc.
Vous vous dites pareil, vous, Vincent Message?
Je peux utiliser l'écriture par moment comme un moyen de poser les choses, ouais, et de réfléchir à quelle direction prendre, quelle décision prendre à des carrefours. Ouais, ça peut m'arriver. Et puis, c'est une autre saisie d'un instant du présent, c'est-à-dire, les carnets, ça sert, comme la photographie, à arrêter un instant en se disant, je ne me fie pas qu'à ma mémoire, je sais très bien que cette période de ma vie, d'ici 5 ou 10 ans, j'en aurai une vision assez faussée. J'aurais inventé des épisodes qui n'ont pas eu lieu, et c'est très troublant parfois de se rendre compte de ça en parlant à des amis qu'on a vécu ensemble quelque chose, que l'un s'en rappelle très bien et l'autre pas du tout, mais même celui qui s'en rappelle très bien, on ne sait pas s'il n'a pas déformé les choses. Et donc elle se dit qu'avoir par moment des traces écrites, ça va lui permettre de retrouver qui elle était. Qui elle était quand elle est partie plus d'un an à Berlin et a commencé à apprendre la photographie là-bas et à rencontrer son compagnon Pierre. C'était quoi cette jeune femme de 22 ans? Ou qui elle est au moment où sa petite fille Manon naît ou fait ses premiers pas? Elle a besoin d'arrêter ces moments-là pour que le présent ne soit pas que du présent, mais constitue une archive dans laquelle elle peut se replonger.
France Culture, il est midi 21 avec notre invité, le romancier Vincent Message, auteur de Cora dans la spirale qui paraît au seuil.
Alors maintenant, vous allez leur expliquer que quand je demande un chiffre, un, on me le donne, qu'on ne me raconte pas la vie, leur vie, je n'en ai rien à faire. Qu'elle sache compter, qu'elle sache pas compter, c'est pas mon problème. Et je veux un chiffre qui tienne la route, pas n'importe quoi.
Et comment faire pour les manches dedans ?
C'est pas des manches que je vous parle, c'est que je vous parle de la production. N'essayez pas de sortir du rail. Le rail, pour le moment, c'est la production. Le rail, c'est la production. D'accord ? Les manches, c'est une autre voie. Mais je vais vous ramener sur le rail de la production. Je veux que chaque ouvrière me donne des productions correctes, des chiffres qui ne sont pas des chiffres bidons, qui ressemblent à la réalité, au travail. Et je veux la production de marquer aussi sur le cahier.
Ah, ce père qui rêvait de fils diplômés, auquel on a si peu pardonné, toute une enfance à marmonner, ceux qui se tirent dessus sont-ils paumés? Artiste à mon insu et le mépris rappé à n'importe quel prix. Puis t'apprends comme tomber de balançoire, l'argent n'est pas une fin en soi. D'une descendance pauvre, ce qu'on cherche, c'est la fierté d'un autre. Ma rime, une femme jugée à sa jupe, le succès ne nous a pas assagi. Le droit de chanter. Les cas sociaux sont nés des silences coloniaux. Polyglottes multiples origines, quête identitaire, lyrics corrosifs. Ne pourra pas visiter qui n'a pas invité. On parle pas bien français et les stades remplis qu'on fait. Nos fans se complices aussi loin qu'on puisse. Certains accueils me pincent les lèvres. Rapper, c'est être tristement célèbre. Le droit de chanter.
Avec Oxmo Puccino, on a tous le droit de chanter. Extrait de son nouvel album La Nuit du Réveil, qui sort aujourd'hui sur le label Believe. Son 7e album qu'il qualifie lui-même de clair-obscur à la Caravage. Il y invite Aurel San ou encore Gaël Faye. Oxmo Puccino sera en tournée dans toute la France à partir du 8 novembre.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Romancier, vous enseignez aussi la littérature, Vincent Message, fondateur du Master de Creative Writing, création littéraire à Paris 8. Écrire, ça s'apprend ? Point d'interrogation.
Bah oui, les gens n'aissent pas en sachant écrire, donc ça s'apprend. La question est de savoir si on le fait plus ou moins dans son coin en lisant des auteurs qu'on aime et en essayant de se situer sur la carte de la littérature déjà existante. Ou si on s'autorise à le faire aussi avec des formes de sociabilité. Et il y en a toujours eu dans l'histoire de la littérature. Il y a eu les salons, il y a eu les revues. Les maisons d'édition proposent aussi souvent une forme de sociabilité à leurs auteurs. Et puis aujourd'hui, depuis 2013, il y a en France aussi des formations de création littéraire.
À vous lire, on aurait le sentiment, en tout cas l'impression que vous avez appris, non pas sur les bancs d'une fac, mais oui. À travers la fréquentation de ces auteurs, d'auteurs et de livres qui
vous
sont
chers. Oui, bien sûr. Moi, j'ai appris sur une période de temps très longue. J'ai une partie de l'histoire du roman, qui est un genre qui me fascine vraiment dans le corps. On a parlé du roman réaliste tout à l'heure, mais il y aurait aussi... la génération moderniste qui compte beaucoup pour moi, par exemple Musil, Joyce, Kafka, Proust. C'est j'ai regardé de très près comment ils faisaient les choses, avec quel sens de la variation formelle, par exemple. Dans ce roman Cora dans la spirale, les chapitres sont pas tous construits de la même manière. Le chapitre est une unité qui compte vraiment. J'essaye de faire basculer d'un modèle narratif à l'autre. Il va y avoir le premier chapitre raconte une journée, celle de la reprise du travail après le congé de maternité, alors que le deuxième raconte l'histoire d'une entreprise depuis 1947, donc c'est une forme assez distincte. Mmh. Et il y en a un autre qui s'appelle Instruction pour descendre aux enfers et qui vraiment met en place la spirale descendante. Donc Et ça, c'est quelque chose que je tiens beaucoup plus de cette génération moderniste que du 19e, par exemple.
Et c'est un roman qui est très référencé, hein, qui est truffé de clins d'œil à tous ces auteurs. Ça peut aller de Flaubert à Balzac, à Kafka, comme vous l'évoquiez, ou à Julien Gracq avec La liberté grande, à L'esprit de complexité de Kundera, que vous retransmettez aussi ici, à Cervantes avec l'idée des carnets, des manuscrits retrouvés que vous republiez aussi.
Mais vous en voyez peut-être plus qu'il y en a.
Peut-être plus qu'il y en a, ouais. Mais justement, est-ce qu'il y a aussi une manière, vous, en reprenant la plume, de rendre hommage à tous ceux qui vous ont fait du bien ou fait réfléchir?
Alors, il y a quand même un primat du personnage dans ce roman qui fait que je ne citerai aucun auteur que Cora ne connaîtrait pas. Elle franchit le pont Flaubert à un moment donné en allant en Normandie, et donc brusquement Flaubert est là, et il se trouve que lycéenne ou post-adolescente, elle a lu Madame Bovary, donc je peux en dire un mot. Mais il y a d'autres choses qui comptent pour moi, mais qui ne sont pas dans sa vie à elle, et je respecte cet écart, que la vie du personnage et son expérience restent premières.
Prime sur celle de l'auteur.
Oui, tout à fait.
Donc, on peut croire que Cora écoute Monteverdi, a vu ou aimé les photos de Willy Ronis, elle en a une d'ailleurs en poster près de ses yeux.
Je raconte un peu toutes ces nourritures spirituelles parce qu'effectivement elles me paraissent être la seule manière de tenir. Je crois pas qu'on puisse rester debout sans se nourrir de fiction, sans écouter de la musique. À un moment donné, quand elle est ado, elle a un chagrin d'amour et elle dit « la musique sauvera peut-être le monde, en tout cas moi elle me sauve tous les jours ». Et elle dit « c'est de la mégalomanie d'ado de dire ça, mais quand même j'y crois ». Elle continue à y croire, c'est-à-dire que je lui fais écouter notamment un morceau sublime de Monteverdi qui s'appelle Zefiro Torna dans la version de l'arpeggiata, et qui est une sorte de tube du printemps 1632 ou 50, je sais plus. Et sans ces musiques-là, je ne sais pas si elle pourrait résister à la pression qu'elle subit, à la violence économique du quotidien. Donc voilà, c'est une nourriture spirituelle, je les mentionne, et je dis un peu le rapport qu'elle entretient à ses musiques ou à ses œuvres, parce que je crois que c'est ce qui nous permet d'être vivants dans un sens plein.
La question du point de vue, d'où on regarde, d'où on parle, est essentielle pour vous. Vous nous le rappelez une fois encore, Vincent Message, et ici aussi, en multipliant les regards dans ce roman. On revit aussi l'histoire de Cora à travers une triple temporalité, passé, présent, futur. Une histoire racontée demain, celle d'un drame qui a eu lieu aujourd'hui, mais dont les causes plus anciennes sont peut-être à rechercher hier. Vous flirtez toujours et encore avec tous les genres. À lire donc votre roman Cora dans la spirale qui paraît au seuil. Une dernière question, est-ce que vous êtes idéaliste, vous aussi, comme votre héroïne, et après quel idéal vous courez?
Oui, je suis idéaliste. L'idéal après lequel je cours, probablement qu'il y ait moins de violence. Je crois qu'il y en a moins que dans l'histoire, que nos vies actuellement sont plus douces que dans les siècles précédents, mais ça peut très vite se retourner, notamment avec les crises politiques ou écologiques. Et donc je crois que ce serait bien qu'on s'attelle tous à diminuer la violence autour de nous.
Merci beaucoup, Vincent Message. Merci.